Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nous sommes en guerre.
Moi, je, personnellement, je m'étouffe.
Accélère ! Accélère ! Ils sont au genre du pognon !
Merci.
Vous laissez la star tranquille.
Le droit à l'avortement est très fortement menacé aux États-Unis. On va comprendre pourquoi dans quelques instants. L'armée russe affaiblit en Ukraine, l'état de la liberté de la presse dans le monde, ou encore un pays qui rouvre ses frontières après 2 ans de fermeture. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Et on commence donc avec le sujet majeur aujourd'hui, forcément donc à la une. C'est une information qui a fait l'effet d'une bombe aux États-Unis. La Cour suprême, donc la plus haute juridiction des États-Unis, s'apprêterait à menacer le droit à l'avortement aux États-Unis, et ce de façon absolument majeure. C'est ce qu'indique le média Politico, qui s'est procuré une centaine de documents. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Pourquoi ce retour en arrière? Et surtout, est-ce réellement possible? On va essayer de comprendre tout ça ensemble. Bon, déjà, pour bien comprendre ce qui se passe, il faut comprendre comment fonctionnent les lois aux États-Unis. En fait, contrairement à la France, les lois américaines sont souvent votées à l'échelle de chaque État, sachant qu'il y a 50 États aux États-Unis. Et après, au-delà de ces lois donc votées à l'échelle locale, disons, il y a ce que l'on appelle le droit fédéral. Et là, en l'occurrence, le droit fédéral, ce sont des lois qui sont votées à l'échelle nationale et qui valent pour tous les États des États-Unis. Et sur le sujet de l'avortement, en fait, depuis 1973, l'arrêt Roe versus Wade, qui a été voté à la Cour suprême, garantit aux femmes le droit d'avorter tant que le fœtus n'est pas viable, c'est-à-dire jusqu'à 22 à 24 semaines de grossesse. C'est un droit qui est assez important, car il est inscrit donc dans la Constitution américaine, donc la loi suprême du pays. Et du coup, aujourd'hui, ce potentiel changement de la Cour suprême, en quoi ça consiste concrètement? Pour être parfaitement précis, la Cour suprême ne compte pas rendre l'avortement illégal dans tous les États-Unis, mais en gros, la Cour suprême veut enlever ce droit de la Constitution américaine, ce qui veut dire que ça permettrait à chacun des 50 États des États-Unis d'interdire ou alors d'autoriser l'avortement un peu comme ils le veulent, puisqu'en l'occurrence, en supprimant cet arrêt, il n'y aurait plus de loi ou de règles communes à respecter sur le sujet. Et d'où vient cette information? En fait, le média Politico s'appuie sur un document de travail datant de février 2022, des juges conservateurs de la Cour suprême, donc pour résumer grossièrement, ceux qui sont plutôt proches du parti républicain de Donald Trump, et qui estiment, je cite, qu'un droit à l'avortement n'est pas profondément enraciné dans l'histoire et les traditions de la nation. En gros, selon eux, le peuple américain n'a pas été consulté pour prendre cette décision, et du coup, le droit à l'avortement devrait être décidé par les représentants de chaque État, et non pas donc régi par la Constitution de tout le pays. Bref, selon ces documents, la Cour suprême pourrait retirer le droit à l'avortement d'une certaine façon de la Constitution et donc permettre à chaque État de faire ce qu'il souhaite. Mais donc pourquoi d'ailleurs ce changement soudain? En réalité, c'est pas un changement qui est si soudain que ça, puisque depuis déjà plusieurs mois, on en a beaucoup parlé sur la chaîne, une douzaine d'États américains a déjà adopté des lois très restrictives en matière d'avortement. Il y a notamment le Mississippi, l'Alabama ou encore le Texas. Et pour bien comprendre, l'arrêt Roe versus Wade dont je vous parlais à l'instant, il est accompagné d'une autre décision Doe versus Bolton, qui autorise chaque État à ajouter des restrictions au droit à l'avortement quand la grossesse est avancée. D'ailleurs, récemment, sans rentrer trop dans les détails, mais la Cour suprême avait décidé de ne pas suspendre une loi très restrictive concernant l'avortement dans le Texas, une loi qui a été entrée en vigueur en septembre 2021 et qui interdit l'avortement au-delà de 6 semaines de grossesse. En gros, ces textes de restrictions ont été écrits spécialement pour contourner cet arrêt Roe versus Wade, sans pour autant rendre l'avortement illégal, puisque les États n'ont pas le droit de le faire donc aujourd'hui. Bref, pour résumer, mais c'est très peu clair, le droit à l'avortement est déjà fortement restreint dans certains États, et donc la Cour suprême voudrait aller au-delà. Aujourd'hui, la Cour suprême est composée de 9 juges, dont 6 juges qui sont républicains, donc le camp de Donald Trump, et 3 juges qui sont démocrates. Ces juges de la Cour suprême, il faut comprendre qu'ils sont nommés à vie par le président américain, et pendant son mandat, Donald Trump a nommé 3 juges, ce qui fait donc que la tendance générale libérale de la Cour suprême est plutôt à droite, conservatrice, et donc plus proche des idées des États qui limitent justement le droit à l'avortement. Cette volonté donc de ne plus rendre le droit à l'avortement obligatoire à l'échelle des États-Unis, eh bien semble donc être en accord avec un certain nombre de leurs positions. Bref, là-dessus, la décision finale des 9 juges de la Cour suprême est attendue d'ici début juillet. Actuellement, seuls les 3 juges démocrates, donc du camp de Joe Biden, sont clairement opposés à cette révision du droit constitutionnel à l'avortement. Et en tout cas, suite à cette révélation, eh bien des centaines de personnes se sont spontanément rassemblées devant la Cour suprême à Washington pour protester. De notre côté, évidemment, on vous tiendra au courant sur ce sujet absolument majeur, qui évidemment ne concerne pas la France en l'occurrence, mais qui concerne eh bien des millions de femmes forcément aux États-Unis. Et donc on continuera à suivre ça dans les prochains jours. On poursuit comme chaque jour, forcément avec un petit point concernant la situation en Ukraine. Selon les services de renseignement du ministère de la Défense britannique, eh bien l'armée russe serait, je cite, considérablement affaiblie suite à l'invasion de l'Ukraine. Bon, évidemment, ça reste des informations à prendre avec des pincettes, mais selon le Royaume-Uni, eh bien malgré une grande modernisation de son armée ces dernières années, la Russie n'aurait tout de même pas réussi à dominer la guerre en Ukraine à cause notamment d'erreurs stratégiques ou encore d'exécution des opérations. Et au passage, comme on parle du Royaume-Uni, sachez que le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est adressé au Parlement ukrainien par visioconférence ce mardi, et c'est en l'occurrence un fait assez marquant puisque c'est une première pour un dirigeant occidental de s'adresser comme ça au Parlement ukrainien depuis le début de la guerre. Deuxième information rapidement concernant l'Ukraine, Emmanuel Macron et le président russe Vladimir Poutine se sont appelés aujourd'hui pour la première fois depuis le 29 mars, donc ça fait quasiment un mois. En fait, avec la présidentielle notamment, eh bien, il y avait eu moins d'échanges ces derniers jours. C'est en l'occurrence un appel assez important puisque les deux présidents ne s'étaient pas parlé depuis la découverte du massacre de Boutcha notamment début avril en Ukraine. Ils se sont parlé donc pendant près de 2 heures. Vladimir Poutine a notamment déclaré que l'Occident devait arrêter de fournir des armes à l'Ukraine. On n'a pas encore la version officielle de la part de la France concernant cet échange, mais évidemment je vous tiendrai au courant. On continue avec les actualités en bref comme chaque jour. D'abord, cette première information importante, l'association Reporters sans frontières a publié son nouveau rapport sur la liberté de la presse dans le monde, et la France gagne 8 places cette année pour se classer 26e. La liberté de la presse y est considérée comme satisfaisante par le rapport, même si forcément c'est encore très très loin d'être parfait et il y a beaucoup de choses encore à améliorer. Le deuxième sujet par ailleurs d'inquiétude de l'association, c'est la hausse du contrôle des médias dans les régimes autoritaires. Hong Kong par exemple est passé de la 80e à la 148e place. C'est la plus grosse chute en fait dans ce classement cette année, puisqu'en l'occurrence eh bien, le gouvernement chinois contrôle beaucoup beaucoup plus ce qui se passe en ce moment à Hong Kong. Deuxième information, en Afrique et plus précisément dans un pays, la Centrafrique, eh bien l'ONG Human Rights Watch accuse des soldats russes et probablement des membres de la milice Wagner, donc des hommes qui ne font pas partie officiellement de l'armée russe mais qui se battent comme des soldats privés, eh bien ils les accusent de torturer et d'assassiner des civils depuis leur arrivée en 2018. Ils affirment avoir des preuves de ces crimes et notamment eh bien du meurtre de 12 hommes non armés à un barrage routier en juillet 2021. Ces mercenaires en l'occurrence sont dans le pays pour aider le gouvernement à maintenir l'ordre, mais il y a donc de très nombreux crimes commis sans aucune conséquence pour eux. C'est donc des nouvelles révélations, des nouvelles accusations qui sont faites par cette ONG de défense des droits de l'homme. Troisième actualité, le Parti communiste français de Fabien Roussel et la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon ont finalement trouvé un accord après des jours de discussion pour s'allier aux élections législatives qui sont prévues les 12 et 19 juin. Alors c'est une alliance menée quand même majoritairement par la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, dont fait déjà partie depuis quelques jours Europe Écologie Les Verts, on en avait parlé hier sur la chaîne, et donc désormais il y a un troisième parti avec le Parti communiste français. En plus de ça, il pourrait également y avoir le Parti socialiste dans les prochaines heures ou les prochains jours. Évidemment, on verra si un accord est trouvé, mais donc l'objectif pour tous ces partis, c'est de s'unir pour présenter un seul candidat dans chacune des circonscriptions, maximiser comme ça pour eux les chances de la gauche et tenter d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale, avec l'objectif qu'ils ont donc derrière d'obtenir potentiellement un gouvernement de gauche. Quatrième information, la canicule continue en Inde et au Pakistan avec des pointes à 50 degrés à certains endroits, ce qui entraîne des coupures d'électricité et des pénuries d'eau potable qui touchent particulièrement les plus pauvres. Les températures ont aussi entraîné l'incendie de la plus grande décharge de New Delhi, qui est donc la capitale de l'Inde. Ça entraîne forcément beaucoup de pollution et ça touche là aussi particulièrement les populations les plus pauvres qui vivent à proximité, qui n'ont pas forcément les moyens de s'en protéger et donc qui subissent tout ça de plein fouet. La situation en Inde et au Pakistan prouve donc à quel point les les plus pauvres vont être les plus frappés par les conséquences du changement climatique à l'avenir, alors que ce sont eux qui polluent le moins. C'est un sujet qui est absolument majeur dans le cas de l'Inde et du Pakistan. On avait parlé d'ailleurs la semaine dernière des conséquences à long terme de ces chaleurs extrêmes, avec des zones qui pourraient bientôt devenir inhabitables dans ces pays. Je vous renvoie aux actus du jour qu'on a posté il y a quelques jours. Si vous voulez en savoir plus, évidemment, on continuera à en parler. Allez, on termine tout de même, puisqu'il le faut bien, avec une bonne nouvelle. Après plus de 2 ans de fermeture à cause de la pandémie, la Nouvelle-Zélande a rouvert ses frontières à plus de 60 pays ce lundi, dont le Royaume-Uni, les États-Unis ou encore la France. Alors pour l'instant, seuls les voyageurs vaccinés ont pu se rendre dans le pays et des familles ont pu se retrouver alors qu'elles ne s'étaient pas vues en fait depuis des mois. Ça a donné lieu forcément à des scènes de joie à l'aéroport et forcément de ce point de vue-là, c'est beau à voir. Et pour les autres pays comme l'Inde ou encore la Chine, les voyageurs vont devoir a priori encore attendre un peu, a priori jusqu'au mois d'octobre. Donc encore quelques semaines ou quelques mois d'attente pour ceux qui attendent de se retrouver. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.